Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Elle s'appelle Clarisse Kremer. Elle a 33 ans. Elle est skipper, navigatrice. Elle a terminé 12e de la dernière édition du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire en 2020. Et hier, on a appris que son sponsor, Banque Populaire, l'avait remerciée. La raison pour concourir au Vendée Globe, il faut participer à des courses qui sont autant de pré-qualifications. Or, Clarisse Kremer est devenue maman en novembre 2022. Depuis plus d'un an, elle ne navigue plus en compétition. Et Banque Populaire considère qu'elle n'est plus dans la course, dans tous les sens du terme, et la vire. Et Vendée Globe, qui organise ce tour du monde, n'entend pas qu'une femme enceinte ne soit pas sur un bateau et qu'elle accouche par force neuf. Honte à Banque Populaire, qui ignore que les femmes font des enfants. Vendée Globe ne vaut guère mieux dans cette affaire. Et le dossier est maintenant sur le bureau de Madame le ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui permettra, j'en prends le pari, de trouver une solution. Il est difficile d'être une femme parfois en 2023. Bonjour Audrey Berthaud.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un important point de deal a été démantelé à Vaux-en-Velin, près de Lyon. 1 300 000 euros de drogue ont été saisis. 7 personnes ont été arrêtées. Ce point de deal générait près de 20 000 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est d'ailleurs à cet endroit que mi-décembre, un important incendie avait causé la mort de 10 personnes. C'est le début des vacances de février ce soir pour la zone A. Regardez ce sondage CSA pour CNews. Un peu moins de la moitié des Français, 43%, veut interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. Les principaux syndicats de la SNCF ont déjà appelé à une journée de grève le 7 février. Et puis ce forfait de Mbappé face au Bayern le 14 février, Kylian Mbappé ne pourra pas être sur pied pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le joueur souffre d'une lésion de la cuisse gauche. Il sera donc absent pendant 3 semaines et ne participera pas aux 4 prochains matchs du PSG.
En général, si t'as besoin de rien, t'appelles les banquiers. Georges, mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, les banquiers en France, bon. Georges Fenech, Dominique Jamais, Paul Melun, Laurent Geoffrin et Gauthier Lebret sont avec nous. On parlera tout à l'heure de Clarisse Kremer, mais je voudrais qu'on commence évidemment par le décès de CM. On imaginait le pire et le pire est arrivé. Je voudrais qu'on écoute l'avocat de la famille.
Si vous voulez, Siem, d'abord, elle voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère. Il y a un grand écart d'âge entre les deux. Et la relation qui faisait le lien entre Siem et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine, qui est donc l'ex-femme de cet individu.
Le procureur de Nîmes, la procureure de Nîmes a également pris la parole.
Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité. Il faisait ces déclarations pour elle, pour sa famille et pour sa conscience. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps, à savoir un endroit isolé aux alentours de la Grand Combe.
Et avant de vous donner la parole, écoutons la procureure qui rappelle le profil du mis en examen.
Le mis en examen est sorti de prison après avoir purgé intégralement la peine dans le cadre, premièrement, d'une détention en maison d'arrêt, puis d'aménagement de peine successif et progressif sous le contrôle d'un juge d'application des peines.
Et il était particulièrement connu des services de police, comme l'a rappelé Madame Jansac, qu'on écoute une dernière fois.
Le mis en examen, âgé de 39 ans, est déjà connu des services de justice. Son casier judiciaire porte mention de 5 condamnations pour des faits d'atteinte aux biens et de 8 condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec armes, pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la Cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012. Il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec usage d'une arme. Il avait fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de 3 ans, simultanément à la peine purgée de 12 années.
Il y a une ambiguïté, on le soulignait hier, dans les propos de la procureure. Elle dit que la peine a été exécutée. C'est vrai. Mais avec toutes les remises de peine et à l'arrivée, cet homme a été condamné en 2015 à 12 ans. Comme il était en préventive depuis 2012, il avait déjà fait 3 ans. Mais il est sorti en 2017. Donc il a fait 5 ans sur les 12 ans. Première chose.
Ça veut dire teinte.
Oui. Bon, première chose. Deuxième chose, il devait comparaître devant un tribunal d'assises, je crois, hier ou avant-hier. Et on apprend, ça m'étonne, qu'il comparaissait libre, alors qu'il est multirécidiviste. Donc c'est toujours pareil, quand on a un fait divers en France, on s'aperçoit comment fonctionne la justice et on en est étonné. Vous êtes ancien juge d'instruction.
Moi, j'ai envie de vous dire, on entend une réaction, une analyse clinique qui est faite par le procureur qui dit les choses telles qu'elles sont. Mais si nous devons nous interroger sur ce que ne dit pas la justice, c'est effectivement les questions que vous posez. Comment se fait-il que dans notre système aujourd'hui de réduction de peine, on en arrive à de telles largesses, puisque aujourd'hui, on fait bénéficier un condamné de 6 mois de réduction de peine par an. Vous voyez ? Donc on en arrive effectivement, quand il y a 10 ans ou 12 ans, ça fait 5 ans de prison. Donc ça, c'est la première question que le procureur, évidemment, ça n'est pas lieu pour le procureur de l'aborder. Mais nous avons une réflexion à porter sur notre système pénal. On peut se poser la question sur cette extrême bienveillance à l'égard des condamnés. Et puis, on nous dit, effectivement, il est en liberté. Il a purgé sa peine. Et on a le droit de se poser la question d'un individu qui est noté comme dangereux. D'ailleurs, il y a des expertises psychiatriques qui l'ont dit, hein, antérieurement. Comment se fait-il alors qu'il doit comparaître à nouveau devant une cour d'assises?
Et tout le monde avait peur dans le village.
Voilà, alors en qu'on fait, a des dispositifs.
Moi, comme toujours, les langues se délient. J'ai entendu des reportages. Tout le monde avait peur de lui, sauf le juge d'instruction ou le juge d'application des peines, qui manifestement, lui, n'est pas au courant. Donc tout le monde l'évitait, avait peur de lui, etc. Et alors, on se dit, mais... Et évidemment, les juges, le juge d'application des peines, tous ces juges-là, ils sont en dehors, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais ils sont en dehors de toute sanction possible. Plus exactement, ils n'ont aucune responsabilité, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que la personne qui dit dehors...
Un juge d'application des peines qui remet en liberté dans le cadre de la loi, il ne commet pas de faute disciplinaire.
Ils n'ont aucune
Il n'a pas de responsabilité professionnelle. Alors là aussi, on peut aussi élever le débat au niveau de la société. Est-ce qu'il est normal que la magistrature soit le dernier grand corps de l'État à ne pas avoir de responsabilité? Les chefs d'entreprise sont responsables, les avocats sont responsables, les médecins sont responsables. Et les magistrats, pour l'instant, garantissons leur indépendance. Surtout, ne parlons pas de responsabilité.
Et vous en pensez quoi?
Je pense qu'il faut évoluer là-dessus.
Mais ça voudrait dire quoi, être responsable? Ça prendrait quelle forme?
Responsable de ses propres décisions.
Comment ça pourrait se mettre en place? On ne peut pas reprocher, puisque lui, il applique la loi, comme vous le dites très justement.
Ouais, il faudrait déjà modifier la loi.
Oui, c'est ça.
Et puis, vous pouvez avoir des erreurs d'appréciation.
C'est pas la même chose.
On peut avoir des erreurs d'appréciation. Moi, j'avais participé à la commission d'enquête d'Outreau. On avait fait un texte sur la responsabilité des juges. Malheureusement, il avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Voilà.
On a d'une part un fait divers tragique, bon, n'y revenons pas, mais on a une démonstration de plus de ce qu'en France, un des défauts de plus de la justice, on a la démonstration, une fois de plus, d'une justice non pas à deux vitesses, mais à deux visages. Les juges, souvent, pour se défendre contre les critiques qu'on leur fait, disent « mais nous condamnons de plus en plus durement ce qui est vrai ». Et ils condamnent de plus en plus durement parce qu'ils savent justement qu'en aval, les peines seront de moins en moins exécutées. S'ils condamnaient à des peines réelles, on serait plus près de la vérité aussi. Et ce qui ne va pas, c'est il ne s'agit pas de remettre en question le principe des remises de peine à un détenu qui se conduit bien, mais il s'agit que ce ne soit pas automatique.
Oui, hier, très justement, dans le débat, les époux Balkany ont un bracelet. Oui. Les époux Balkany ont un bracelet.
Ils sont dangereux.
Oui, c'est ça. Sans doute. Dangereux. Cet homme-là, donc, qui avait 12 ans de prison, oui, sorti au bout de 5, qui comparait en assise, qui comparait libre, il n'a pas de bracelet.
Oui, mais justement.
Il n'a pas de bracelet.
Mais justement, mais les
juges. Alors évidemment, on a le sentiment, certains disent que.
Alors que c'est impossible de le faire. Hein.
D'une certaine manière, parfois, on a le sentiment que la justice est très vigilante sur certains types de délits et sur certains types de personnes, disons-le. Et puis en revanche, on a le sentiment. Bah, c'est un exemple que je cite là.
Non, mais ce n'est pas une impression. Ça a été une politique pénale qui a été clairement affichée avec l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 80, c'est-à-dire que la priorité, ça n'était plus la délinquance de voie publique, la voyoucratie, etc., dans les banlieues. La priorité, c'était la lutte contre la délinquance en col blanc et la corruption. Voilà. Ouais. On a oublié de traiter une autre
traiter les deux. Mais il faut surtout traiter les deux. Il faut surtout combattre les deux. Mais
ce n'est pas très comparable. Les deux.
Mais c'est pas comparable. Ce qui est comparable, c'est le bracelet. Il y en a un qui l'a et l'autre qui ne l'a pas. Il y en a un qui comparait libre, l'autre qui ne le comparait pas.
Celui qui ne l'avait pas, plutôt que l'enlever à celui qui l'avait.
Oui, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un état d'esprit. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, la justice, pour mais certains, trouve des excuses à certains délinquants et pas à d'autres.
Les remises de peine, ça existe. Corrigez-moi si je me trompe, dans tous les pays européens, il y a
des remises de peine. Il faut les conserver.
Mais sans doute.
Mais pas dans les pays européens. Elles sont trop importantes et donc il faut les réduire un peu.
Ce qui trouble l'opinion publique, c'est que les juges qui ont condamné cet homme à 12 ans de prison, ce qui n'est pas rien, ça paraît une peine plutôt sévère même, savaient parfaitement au moment où ils le condamnaient qu'il y avait toutes les chances qu'il fasse 5 ans.
Bon, on va voir.
Pour tout alors.
Comment ?
Toutes les condamnations, c'est comme ça.
Non, pas le. Pas la perpétuité réelle, par exemple.
Ah oui, ça c'est l'exception, justement.
Oui, voilà.
Pour le reste, les remises de peine.
Il serait intéressant et assez positif que lorsque quelqu'un est condamné à une peine, il pense plutôt qu'il va l'exécuter.
On va voir la colère dans le village.
La remise de peine.
Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela, j'ai dit le contraire.
Il faut les réduire, donc.
C'est ça. Il faut que ce ne soit pas automatique.
Ça ne l'est plus.
Il faudrait peut-être une surveillance plus attentive.
C'est pas automatique. Si le prisonnier fait des fautes, il perd ses remises de peine.
Oui, ben oui.
C'est pas automatique, donc.
Je vous propose de voir un sujet sur la colère dans le village.
Disons que ce genre de cas devrait exister un petit peu moins.
Voilà. Moi, je vous ai dit hier, les multirécidivistes...
Oui, vous voulez mettre en prison à vie, mais ça me paraît contraire au
principe
du droit.
Non, mais c'est exactement ce que je fais. Mais ne... Comment dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas à la deuxième récidive. Il y a un moment, il faut fixer, est-ce là pour, évidemment, des délits ou des crimes, bien sûr. Crime au sens large, crime au sens juridique, pas forcément avoir tué quelqu'un. Mais il y a un moment, on peut considérer qu'il y a des gens qui sont parfaitement irrécupérables.
Ça a existé dans notre code.
Pour la société, et ils ne sortent plus.
Ils ne sortent plus. La relégation pénale.
Ils ne sortent plus parce que... Mais alors, je ne vous dis pas ça pour quelqu'un qui a volé une pomme et puis qui récidive en volant une orange, bien évidemment. Mais au bout d'un certain moment, quand tu as 25 condamnations...
Qui est des peines plus lourdes, je comprends, mais vous entendez pas ce que je dis.
Je protège la société parce que...
Pour un Fourniret ou un Francis Saul, pardon, mais...
Mais je parle même pas de ces gens-là.
C'est criminel, ça, c'est des assassins.
Je parle même pas de ces gens-là. Bon, bref, la colère.
La prison à vie n'existe même plus pour les assassins d'un préfet.
N'existe pas. Oui, ben... Monsieur Alessandri, effectivement, est sorti. C'est une... aménagement de peine. C'est des circonstances très particulières, convenons-en. Et c'est vrai que ça a été assez peu commenté, d'ailleurs, dans l'espace public.
Parce qu'il y avait eu la mort, vous savez, en prison de Colonna.
Bien sûr, qui est effectivement un scandale. La manière dont M. Colonna a été tué en prison.
Bien sûr.
Donc, c'est un véritable scandale. Sarah Fenzari nous rapporte la colère dans ce petit village.
L'inquiétude des derniers jours a laissé place à la colère d'une famille et de toute une commune.
On est tous dévastés. C'est horrible.
Moi j'ai une petite, elle a un an. Si on fait ça à ma fille, mais...
Plongés dans une profonde incompréhension, les proches se recueillent à tour de rôle auprès de la famille. Une famille désemparée face à un homme en état de récidive.
C'est une crapule, c'est ce qu'il faut dire. J'espère qu'il sera lourdement puni.
Le principal suspect est devenu meurtrier, un délinquant condamné à 13 reprises pour des faits de vol, vol avec violence et cambriolage. En 2015, il avait ainsi écopé de 12 ans de prison et devait par ailleurs être jugé cette semaine dans une affaire de vol à main armée.
Il n'était pas en prison. Il a tué une gamine de 18 ans. Il n'a rien demandé. Moi, franchement, je serais à la place de la justice, j'aurais honte.
Dans l'attente de réponse, la famille de Siem a assuré placer son entière confiance dans l'institution judiciaire. La suite de l'enquête devra déterminer les circonstances du décès de la jeune femme.
Voilà ce qu'on pouvait dire du décès de Siem et avoir une pensée, bien sûr, pour ses parents, être en compassion avec eux et toute sa famille. C'est un drame absolu. Et en plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui et le numérique, on voit la photo de Siem partout, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. On la voit belle, jeune, dans différentes... dans sa vie. Dans sa vie heureuse, dans sa vie joyeuse. Il y a beaucoup de photos sur les réseaux aujourd'hui. Donc ça renforce, je trouve, parce que ça s'incarne, cette douleur et cette peine à travers ce visage.
Ça s'inscrit dans une longue série, malheureusement. Hein.
Bien sûr.
Et vous verrez que la semaine prochaine, déjà, il y a une autre jeune fille qui vient de disparaître. Hein. On l'a appris hier. C'est malheureusement des faits qui se répètent. C'est ça, le drame.
Dans l'actualité également, Édouard Philippe hier, et je vous propose de l'écouter parce que chacun a été frappé évidemment par son visage et puis également par l'émotion qu'on va entendre dans ses paroles, la manière dont il parle de lui avec beaucoup, je trouve, de classe, beaucoup d'élégance, beaucoup également de maturité peut-être. Édouard Philippe, de recul plus exactement, Édouard Philippe parle de lui-même et de cette maladie qui est la sienne, l'alopécie.
Qu'est-ce qui m'arrive ?
Expliquez-nous.
Voilà ce qui m'arrive.
Vous avez perdu vos sourcils.
J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi.
La moustache aussi.
Oui, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, que c'est une perte de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, que j'en souffre à 52 ans. Bon, j'ai 52 ans, perdre ses cheveux à 52 ans, c'est bien, ça va, c'est pas un sujet. Il y a des gens qui sont frappés d'alopécie, ils ont 15 ans. Un adolescent, une adolescente frappée d'alopécie à 15 ans, c'est pas du tout la même histoire, c'est facile pour moi, j'ai de la chance. Pour elle ou pour lui, c'est une toute autre histoire, une toute autre façon de voir le regard porté par les autres sur soi-même. J'en sais rien quelle est la cause.
La cause, c'est quelque chose qui...
J'en sais rien. Mais en tout cas, je voudrais vous dire ça.
Vous ne savez pas.
Non, je ne sais pas. Alors quand je lis Wikipédia ou quand je pose la question...
Vous avez vu un médecin qui vous l'a dit.
Ils m'ont dit, ça peut être le stress. Bah, peut-être que c'est le stress. Est-ce que j'ai une vie stressante? Oui, je vous le confirme. Bon, voilà, j'ai été Premier ministre. Vous imaginez si, après avoir été Premier ministre ou pendant être Premier ministre, on vous disait « Ah, c'est marrant, vous avez l'air stressé ». Évidemment que vous êtes stressé quand vous exercez des responsabilités. Ouais. Et peut-être que ce serait arrivé, même si je n'avais pas été Premier ministre, et que j'étais resté maire du Havre pendant 3 ans, peut-être que ce serait arrivé. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vivent des trucs beaucoup plus difficiles en France,
bien sûr.
Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles. Ouais. Voilà, j'ai les sourcils qui sont tombés. Ok.
Donc pour 2027,
je suis en pleine forme.
Vous ferez avec ou sans ?
Probablement sans, et ça ne m'empêchera pas d'essayer de faire de mon mieux. Ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour ma ville. Ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays.
Forcément troublant, hein, parce que son visage a changé, mais il en parle vraiment avec beaucoup de dignité. Est-ce que ça peut influer dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs ? Sur une carrière politique.
Lui pense que non. Après,
mais dans un sens ou dans un autre.
Voilà, absolument.
La manière dont il en parle là peut aussi l'influencer.
Exactement, parce qu'il en parle avec beaucoup d'humanité. Exactement. Et il pense tout de suite aux enfants que ça peut toucher, filles ou garçons, à 15 ans. Après, il n'est pas dupe, Édouard Philippe. Il sait que certains s'en servent politiquement, ses ennemis politiques, contre lui. Et il y a eu un article aussi, tout récemment, il y a répondu hier lors de cette interview face à Bruce Toussaint. Donc après, je suis allé voir l'article. C'est un article du Monde. Ils font le portrait d'Édouard Philippe. Et en gros, on voit bien qu'Édouard Philippe s'agace un peu de leurs questions sur sa maladie, sur cette alopécie. Et ils sous-entendent dans Le Monde que ça pourrait être un nouveau Georges Pompidou ou un nouveau François Mitterrand qui voudrait donc cacher sa maladie, une maladie plus grave aux Français. Donc vous voyez que c'est quand même très limite, cette espèce de sous-entendu. Et il y a répondu très franchement Édouard Philippe en disant qu'effectivement certains s'en servaient pour l'attaquer politiquement, ou même des journalistes s'en servaient pour l'attaquer dans leur papier. Donc effectivement, ça peut aussi jouer en sa faveur, parce qu'il en parle avec, encore une fois, beaucoup d'humanité. Après, politiquement, au-delà de ça, il fait une interview 2 heures avant celle de la Première Ministre. Alors il joue à domicile, au Havre. On sait qu'Elisabeth Borne lui avait demandé du soutien à un moment donné pour venir défendre cette réforme des retraites. Et on retrouve tout le sens politique d'Édouard Philippe, qui l'a sans doute défendu avec plus de facilité qu'Elisabeth Borne hier.
Non, effectivement, je pense qu'il a beaucoup d'élégance et de dignité dans son témoignage. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la santé des politiques est un vrai sujet, y compris pour les électeurs, et qu'on se souvient des bilans de santé partagés de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, et de Joe Biden, dont on disait Joe Biden est âgé, etc. Il y a évidemment un lien, je ne sais pas s'il est tacite ou s'il est explicite, mais de la part des électeurs et des citoyens, de se dire, on veut un président qui soit en bonne santé, qui nous représente, qui soit dans la forge de l'âge, qui soit physique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à certains égards, pourrait poser problème à Édouard Philippe, même si je pense que la justesse de son témoignage et son courage dans l'épreuve montre qu'il a l'étoffe, en tout cas, un homme d'État et qui s'est bien comporté sur ce coup-là. Et voilà, chapeau.
Moi, je crois que l'évolution de la mentalité collective va vers une plus grande tolérance envers les gens qui sont dans une situation, comme on dit, du handicap. Et on essaye de les traiter de manière égale, quoi, simplement, en disant, voilà, c'est... Et il y a quand même des exemples historiques. Le président Roosevelt a été élu, réélu 2 fois, alors qu'il était dans une chaise roulante.
Oui, mais qu'il arrivait, comme un documentaire récent le montrait, à la cacher.
Oui, mais les gens le savaient.
Ils le savaient, mais ça
ne montrait pas d'image. Parce qu'on ne voulait pas.
Ça ne se voyait pas. Et là, on est à la charnière. Parce qu'on s'était habitué, et ça passait extrêmement mal dans le public, à des maladies extrêmement graves, mais cachées. Ou que les présidents cachaient.
Oui, mais on les cachait parce que justement, c'était.
Et là, vous permettez ? Vous permettez. Et là, on a affaire, c'est tout à fait inédit, à une maladie apparemment bénigne, mais spectaculaire. Et le test, il est pour Édouard Philippe, mais il est aussi pour le public. Comment va-t-on réagir devant le changement spectaculaire d'aspect du visage de ce monsieur ?
Est-ce que c'est un handicap physique ? Non.
Sur les électeurs,
est-ce que c'est un handicap intellectuel ?
Non.
Est-ce qu'il y a un problème esthétique ? Peut-être, mais vous savez, on s'y fait.
On s'y fait, il a l'air de...
Donc, je ne crois pas que ce soit un handicap politique.
En tout cas...
C'est une question qui est posée pour la première
fois... Si on est pragmatique, c'est pas
un handicap. Un handicap. C'est une question qui est posée pour la première fois sous cette forme à l'électorat. On va voir ce que ça donne.
En tout cas, il y a beaucoup de classe, vraiment, dans son attitude et beaucoup d'élégance. Avant de marquer une pause, je voudrais qu'on parle juste de Philippe Tesson. Parce que quand j'avais 18 ans, 19 ans, il fait partie des journalistes qui me faisaient... rêver, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, que j'écoutais, parce que j'aime cette génération de journalistes extrêmement cultivés, capables de parler de tout, avec légèreté, drôlerie, dérision, une intelligence vraiment sans doute peu commune, et ce moule-là est peut-être cassé, Dominique Jamais.
Il est mort, et je pensais, bien qu'il fût mon aîné de quelques années, que je n'aurais jamais à dire ces mots-là, tellement il était l'incarnation même de la vie. C'est quelqu'un qui est resté brillant jusqu'à son dernier jour, qui a cessé ses activités, et pour cause, de critique de théâtre au Figaro Magazine il y a 3 semaines, jusqu'à 93 ans et demi, il était encore en activité, et c'est quelqu'un dont il a traversé la vie comme un danseur, comme un funambule. C'est quelqu'un qui... joignait deux choses qui coexistent rarement. D'une part, c'était mine de rien un homme d'action, un homme du réel, passionné par la marche du monde, la vie du monde, l'actualité du monde. C'était un journaliste dans l'âme jusqu'au bout. Et depuis 50 ans, et il a été homme d'action, propriétaire, fondateur, propriétaire et directeur de deux journaux, Le Légendaire Combat et Le Quotidien de Paris.
Dans lequel vous étiez ?
Oui, j'ai travaillé 8 ans avec lui. C'est un souvenir qui m'émeut aujourd'hui. Et d'autre part, c'était un homme du rêve. Et la vie rêvée, la vie du théâtre, 12 000 pièces vues en 50 ans d'activité de critique dramatique, la vie rêvée était pour lui aussi importante que la vie réelle et peut-être une compensation ou un complément à cette vie réelle.
Et comment se passait une conférence de rédaction avec Philippe Tesson ? Avec Philippe
Tesson. La conférence de rédaction du Quotidien de Paris était une légende dans la profession. La conférence de rédaction du Quotidien de Paris, comme celle de beaucoup de quotidiens, ça se passait dans la matinée, un peu tard dans la matinée, vers 11h. Puis c'était censé se terminer vers midi. Mais c'était un moment si festif, si agréable, si passionné, si drôle. Le journal qu'on bâtissait au cours de la conférence de rédaction était un journal tout simplement sublime tous les jours. Malheureusement, la conférence de rédaction, elle se terminait à 2h30, 3h. Après ça, les gens allaient déjeuner. Et le rédacteur en chef technique avait beau multiplier les signes, des sons. Il y avait plusieurs imprimeries à l'époque. Attention, on est en train de rater Marseille. On est en train de rater Toulouse. On ne va pas arriver à Orléans. Ça ne faisait rien, la conférence de rédaction. En fait, c'était une pièce de théâtre. Tesson était aussi un homme du spectacle et un homme de spectacle.
Avec une grosse influence à l'époque, le quotidien de Paris avait une vraie influence, avec quand même des gens qui ont fait carrière.
Et Georges-Marc Benamou, et Claire Chazal.
Claire Chazal était à l'économie
Non.
Ah bon, je croyais qu'elle était à l'économie.
Zemmour
était à la culture.
Éric Zemmour a débuté à la politique. Jean-Marie Rouard, beaucoup de gens sont passés par là, bien sûr.
Bon, bah écoutez, merci pour cet hommage. Et on vous voyait chez Pollack, ensemble, en 81.
Dernière chose, Tesson a eu deux malheurs par rapport à la presse. Le premier, c'est de lancer un quotidien à l'époque où la presse papier commençait tout juste son déclin. Et la deuxième, c'est de s'adresser à l'intelligence des lecteurs. C'était un pari.
Ah bah non, c'est ce qu'on fait tous les matins et ça marche. Et c'est pour ça que vous êtes là. Arrêtez, je veux dire, vous incarnez. Vous êtes gonflé.
Ah bon,
je veux dire, on est tous les matins.
C'est donc ici la réincarnation du quotidien de Paris.
J'aime cet esprit-là. Alors franchement, j'aime beaucoup cet esprit-là et cet esprit bretteur. C'est le capitaine de Tréville des Trois Mousquetaires, notre ami Tesson.
C'était un journaliste de combat.
Exactement. La pause, on revient. Voici un livre dont vous n'entendrez parler nulle part. Et son auteur ne sera invité nulle part. Sachez-le. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux. La vérité émerge. Bonjour Pierre Chaillot, vous êtes statisticien.
Bonjour.
Et vous êtes directeur de projet Data Intelligence pour le Conseil régional des Pays de la Loire.
C'est bien ça.
Ça déménage votre livre.
Merci.
je ne sais pas. Mais je le dis aux téléspectateurs, vous ne serez pas invité à France Inter, vous ne serez pas invité sur le service public, vous n'irez pas chez Anne-Elisabeth Lemoine, vous n'irez nulle part. Puisque ce que vous dites n'est pas dans la ligne de la doxa.
C'est bien ça, et en effet, je m'y attends.
Ce que dit monsieur est contesté. Voilà.
Mais... vous contesterez? De toute façon, vous contestez depuis que vous êtes né. Vous êtes un contestateur né. Mais les chiffres ne mentent pas. On écoutera monsieur, après vous ferez votre avis.
Non, parce que vous dites qu'on ne l'invitera pas par sectarisme politique.
Je dis qu'on ne l'invitera pas par sectarisme politique au sens large. Voilà, oui,
c'est ce que je conteste.
Il ne faut pas entendre ce que dit monsieur. C'est toujours pareil. C'est tout. Il ne sera nulle part. D'ailleurs, la première question que je vais poser, vous connaissez Laurent Geoffrin? Bon, il faut toujours que vous mettiez votre grain de sel.
Eh oui, je suis là pour
Audrey Berthaud, rappel des titres.
Je suis invité.
4 condamnés sur 10 ne passent jamais derrière les barreaux. C'est le résultat d'une étude de l'Institut pour la justice transmise au Figaro sur les aménagements de peine. Entre 2016 et 2020, seulement 59% des condamnés à une peine de prison ferme mettraient réellement les pieds en prison. Un ballon espion chinois survole l'Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada traquent au moins un ballon. Il vole à haute altitude depuis plusieurs jours au-dessus de sites militaires sensibles. Pékin dit ce matin vérifier les informations sur ce ballon. Clarisse Kremer, championne du Vendée Globe, ne pourra pas prendre le départ de la prochaine édition en 2024. La Banque Populaire vient de lui annoncer qu'elle serait remplacée par un autre skipper car elle n'aurait pas assez de points pour se qualifier, non pas à cause de ses performances, mais parce qu'elle a pris un congé maternité.
Pierre Chaillot est donc avec nous. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Alors c'est intéressant, comme toujours, c'est les marxistes qui disaient ça, de savoir d'où on parle. Bon, vous êtes statisticien. Vous êtes un professionnel. Vous êtes directeur de projet Data Intelligence pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Vous avez travaillé pour l'INSEE pendant plus de 9 ans, entre septembre 2009 et avril 2019, à Lille puis à Nantes. Donc vous savez de quoi vous parlez, je le précise au départ. Et les grands thèmes du Covid, vous les abordez. Donc on va les aborder avec vous. Première question, y a-t-il eu hécatombe quelque part ? C'est votre premier chapitre. Y a-t-il eu hécatombe ?
La réponse est non. Il y a eu hécatombe nulle part, surtout pas en France, et absolument nulle part en Europe où j'ai pu télécharger les données de la totalité des pays européens et comparer les données de décès et de population à ce qui s'est passé dans le passé. Je vais donner une statistique simple. L'année 2020 en France, l'année de la grande hécatombe, c'est la sixième année la moins mortelle de toute notre histoire. Voilà. Donc ça pose un peu les choses sur ce qui s'est passé réellement au niveau des décès en France. Et ce que je viens de dire pour la France, c'est le cas dans la totalité des pays européens. Au pire du pire, on a des pays pour lesquels l'année 2020, c'est la dixième année la moins mortelle de toute leur histoire. Et il y a plein de pays pour lesquels l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc il ne s'est pas passé d'hécatombe nulle part où on a des données.
Bon.
Vous voulez dire une chose ?
Non.
D'accord.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Que l'INSEE dit le contraire.
Est-ce que l'INSEE dit le contraire ?
L'INSEE ne dit pas le contraire du tout.
Je pourrais vous citer les phrases.
Vous en prie.
Ils disent qu'il y a une surmortalité exceptionnelle et que c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle épidémie de grippe. Ils écrivent noir sur blanc, je viens de le lire.
C'est qui crée l'INSEE ? C'est qu'il y a eu plus de morts en 2020 que pendant l'année 2019. Ils n'ont comparé. Quand ils disent ça, ils disent 2020 par rapport à 2019 et ils font cette comparaison-là. Et oui, il y a eu plus de morts par rapport à 2019. Cela ne signifie pas que c'est une année d'énorme mortalité si on remonte sur un champ un peu plus loin. Et ce que je remonte, c'est que l'année 2020 est tout aussi mortelle que l'année 2015, par exemple, qui n'était pas ni le Moyen-Âge, ni une année où on a enfermé des gens.
Oui, parce qu'il y a eu probablement d'autres maladies qui n'ont pas pu avoir lieu, égard les gestes barrières, etc.
Ça, c'est votre propos.
Il y a une surmortalité due au Covid.
Alors, vous écrivez le premier constat.
Se trompe, ça c'est possible.
Vous écrivez le premier constat rappelé sur la mortalité qu'il n'y a aucune trace de la moindre hausse avant 65 ans. Quelle que soit la manière de considérer la crise vécue par les Français, 80% de la population n'a pas été concernée par un phénomène suffisamment grave pour laisser la moindre trace dans les statistiques de mortalité. Voilà ce que vous écrivez.
Tout à fait. Tout ce qui a été déclenché n'a jamais, de toute façon, on parle de quelque chose où on n'a pas de trace qu'il se soit passé le moindre événement pour les moins de 65 ans, d'aucune sorte.
Une étude de l'INSEE de mars 2022 qui étudie l'impact sur la mortalité du Covid de mars 2020 à décembre 2020, vous soulignez que la période concernée ne dure pas 12 mois, donc ça n'a pas de sens.
Oui, normalement, il faut savoir que la mortalité dans tous les pays, de l'hémisphère nord augmente en hiver. Il y a plus de décès, notamment chez les personnes âgées en hiver. Et donc, absolument jamais, on ne prend des périodes qui sont inférieures à 12 mois, parce que sinon, on apporte un biais qui est énorme, c'est qu'on n'inclut pas les périodes hivernales.
Mais alors, sur les plus de 65 ans ?
Sur les plus de 65 ans, il y a eu un peu plus de décès en 2020 que pendant l'année 2019, qui, je rappelle, est l'année la moins mortelle de l'histoire. Un peu plus, il faut standardiser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, si on fait en décès brut, on annonce plus 70 000, mais il faut savoir que le nombre de décès en France augmente tous les ans parce que la population vieillit. Et donc il est normal de battre chaque année le record du nombre de décès, puisque quand 2020 arrive, on crie que c'est le record de décès. Le record précédent c'est 2019, le précédent c'est 2018, le présent c'est 2017.
Alors il y a eu plus de morts donc.
Il y a eu plus de morts parce que la population vieillit, c'est le premier point.
Mais il y a eu des morts.
On estime qu'il y a deux facteurs, il y a celui que vous indiquez, qui est exact, mais il y a l'autre facteur qui est le Covid. Voilà, ils disent qu'il y a eu surmortalité.
L'INSEE n'a pas la moindre donnée à sa disposition pour dire que c'est le Covid.
Il
n'existe pas au sein de l'Institut de l'INSEE de données sur le Covid. Donc l'INSEE, lorsqu'il ne peut pas écrire qu'il sait que les gens sont morts du Covid puisqu'il ne dispose pas de données. Lorsqu'ils font une étude dans ce sens-là, ils invitent quelqu'un d'autre qui vient du ministère de la Santé qui complète leur étude et ce sont à partir des données du ministère de la Santé qui sont contestées dans ce livre.
Bon, y a-t-il eu, et c'est le deuxième chapitre, le grand thème, y a-t-il eu saturation hospitalière annoncée ? L'INSEE et l'ADRES publient les capacités des établissements de santé. En 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux en hospitalisation complète a diminué de 100 000.
Diminué de 100 000, tout à fait, pendant que la population augmentait. Et donc évidemment, chaque année, lorsqu'il arrive des épisodes où il y a des personnes, notamment l'hiver, des personnes âgées qui ont besoin de soins, de plus en plus, chaque année, il y a des problèmes. Il y a des problèmes tous les ans. En 2015, il y avait tellement de problèmes que les personnes âgées mouraient dans les couloirs. Il y a même le ministre Marisol Touraine qui s'est déplacé.
Mais là, on a vu quand même, je crois que c'était au-delà de 6 000...
Lits de réanimation.
Lits en réanimation, on ne peut plus prendre des malades. Donc c'est ce qui se passait au moment où le président Macron confine tout le pays.
Ce qui s'est passé, il faut rappeler le contexte aussi, c'est que ça fait plusieurs mois, voire années, qu'on a tout un tas d'urgentistes qui sont en grève parce qu'ils disent qu'ils manquent de moyens en permanence.
Mais non, mais, là, en ce moment, par exemple, il y a 1 000 lits. de réanimation en ce moment. Il y a 1000 personnes qui sont en réanimation. C'est 1000 lits ou 1500, ça doit être ça le chiffre. Bon.
Vous parlez des estampillés Covid ou des totales ?
Non, total. Au total. En ce moment, si on fait le...
Ça veut bien dire que pendant le Covid, il y avait plus de personnes en réanimation et que ça a saturé les services de réanimation. Ça, vous le contestez pas ?
Je le conteste. Les hôpitaux n'ont pas été saturés et les lits de réanimation n'ont pas été saturés.
Mais oui, mais les urgentistes, ils vous entendent, ils disent... Je veux dire, moi, je les ai eus sur le plateau. Ils venaient sur ce plateau.
Tout à fait.
Et ils disaient, ils n'inventaient pas la situation qu'ils décrivaient.
Bien sûr, il y a des services de réanimation qui ont été saturés en France sur cette période-là, comme tout le temps, puisque c'est saturé. Il est faux, parce qu'il s'est saturé tout le temps. Et que c'est même comme ça que fonctionne l'hôpital depuis la tarification de l'acte. Il s'agit de saturer l'hôpital en permanence de façon à optimiser les lits.
Oui.
Donc ça, c'est bien le principe. Et donc, pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose d'ailleurs, qui a été fondamental sur la politique mise en place, qui était notamment le plan Orsan-Reb. Le plan Orsan-Reb a dit assez tôt, au mois de fin février, début mars, qu'il n'y aurait plus en France, sur les 1500 établissements hospitaliers, que 38 qui seraient considérés comme aptes, habilités à recevoir du Covid, et donc à recevoir des personnes malades. Vous avez en France plus de 3 millions et une personnes qui sont en difficulté respiratoire permanente, donc qui ont des problèmes et qui, quand il y a des difficultés, qui doivent être soignées. Si, dans une période comme ça, vous dites qu'il y a que les problèmes respiratoires qui arrivent sont une maladie et que vous allez concentrer toutes les personnes qui ont des problèmes sur 38 établissements sur 1500, vous allez créer de la saturation, c'est certain. Donc oui, il y a eu de la saturation et des gens qui ont très mal vécu la situation à certains endroits précis, mais c'est faux de dire que c'était partout en France pareil.
Vous dites qu'il n'y a pas eu de déferlement de malades. La grande nouveauté de 2020, c'est d'avoir créé et maintenu une psychose à un très haut niveau grâce à une nouvelle arme destinée à faire peur, le test Covid-19. Avec ce test, la maladie mortelle qui sature les hôpitaux rôde partout sans avoir besoin de morts, ni d'hôpitaux saturés, ni même de malades.
Tout à fait. C'est la nouveauté qui a été mise en place. C'est la mise en place du test généralisé. Où on a vécu la bonne formule du docteur Knock, à savoir tout bien portant est un malade d'ici qui s'ignore, c'est-à-dire vous placiez...
Il n'y a pas eu de déferlement de malades ?
Non,
on le voyait dans l'entreprise.
Non, il n'y a pas eu de déferlement de malades. Il suffit de prendre les statistiques du réseau Sentinelle ou des SOS médecins pour se rendre compte des gens qui ont fait appel à eux. Et puis ensuite, vous prenez les statistiques hospitalières. Enfin, non, il y a eu tout un tas de...
Par exemple, quand l'INSEE dit qu'en cas de vague, il y a eu 116 000 morts, ça par exemple, c'est vous...
Non,
vous pensez que c'est faux, que l'INSEE nous dit des bêtises.
En ce moment, par exemple, dans l'entreprise, il n'y a pas un cas de Covid. En ce moment, il n'y en a pas. Alors qu'en 2020, moi, j'étais avec des gens, j'étais cerné de gens qui avaient le Covid.
Il n'y a plus de cas de Covid, notamment, puisqu'on a arrêté de faire qu'il n'y ait plus de jours de carence lorsqu'on était Covidé. Donc oui, il y avait tout un tas de cas de Covid pendant très longtemps, à partir du moment où c'était gratuit de se faire faire un test, et qu'en cas de test positif, on avait le droit à une semaine de congé, et que... 5 jours de carence, et qu'en plus, on n'était plus obligé de faire une dose supplémentaire de vaccin. Donc il y avait tout un tas de candidats qui allaient se faire tester pour des
Vous dites que l'INSEE ne donne pas le chiffre de mort du Covid, mais il y a des services de santé qui ont donné ces chiffres. Ils étaient affolants, ces chiffres. Il y a eu des dizaines de milliers de morts.
Mais
centaines de milliers.
Il y a une différence entre un mort, estampillé d'une maladie et un enregistrement qui est d'ordre bureaucratique. Si jamais vous faites des tests à tout le monde et que vous avez des tests qui sont positifs, même sur des personnes qui n'ont absolument rien, et qu'ensuite ces personnes décèdent, et qu'ensuite vous les comptez Covid, vous avez tout un tas de statistiques qui seront déclarées mort Covid et qui n'ont absolument rien à voir.
Ça, c'est vrai qu'on l'a dit, des gens qui étaient en phase terminale et qui seraient morts 15 jours plus tard et qui sont morts, ça existait. Mais il y a évidemment des gens qui... Alors, combien de gens sont morts, j'ai envie de dire, du Covid ? Mais pas, avec le Covid, ce qui est une différence. Il y a quand même des gens qui sont morts du Covid.
Ce que je montre dans le livre, c'est que nous sommes incapables de le savoir, puisque les statistiques proposées, estampillées Covid, n'ont absolument aucun sens et ne correspondent en aucun cas à une surmortalité, ni en aucun cas à quelque chose qui est clair. Non, l'INSEE...
Sur le site de l'INSEE,
c'est marqué, c'est le titre.
C'est le titre de l'article, en gros. En France, comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19, mars, début avril.
Lié à la Covid-19, donc nous ne parlons pas de morts qui sont morts du Covid-19, mais liés au contexte de Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a une surmortalité sur la période, dont il convient de discuter. Il y a une surmortalité de personnes âgées qui ne correspond pas à une hécatombe,
Il n'y a
pas de surmortalité par rapport à 2015, par exemple, et même par rapport à 2012 ou 2013, il y a une sous-mortalité.
J'ai lu un article qui dit le contraire. Et bon, l'INSEE.
Très bien, mais par rapport aux précédentes années, il y a...
Alors,
vous dites qu'il y a des signes d'une mortalité post-vaccinale.
Oui.
Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous sous-entendez que le vaccin, par les chiffres,
Bon, donc, en 30 ans de vaccination hors vaccin Covid-19, 11 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient ont été remontés à la pharmacovigilance. En seulement 2 ans, et pour les seuls vaccins Covid-19, 16 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient sont déjà remontés. Mais parce que tout le monde a été plutôt vacciné du Covid-19, alors que les autres vaccins, tout le monde ne se vaccinait pas contre la grippe. Moi, je l'interprète comme ça.
Mais la grippe...
Il y a tout... Ce qui m'intéresse, moi, dans... Le vaccin, c'est est-ce que les effets, est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires avec le vaccin Covid-19 qu'avec le vaccin contre la grippe, en pourcentage ?
Il y a plus d'effets secondaires remontés en pharmacovigilance, puisqu'il y a bien plus...
De... En pourcentage, hein ? Mais c'est pas en valeur.
Bien sûr. Alors après, il faudra voir. On a facilement aujourd'hui le nombre de vaccins Covid-19 qui ont été distribués, puisqu'il y a tout un tas de statistiques dessus. Mmh. C'est plus compliqué d'avoir le nombre de vaccins distribués pour la grippe et les autres vaccins. En revanche, on a des choses quand même sur la grippe en France qui sont distribuées et on voit bien, vis-à-vis du nombre de vaccins distribués chaque hiver, et ça fait 30 ans que ça dure, on peut se dire que le nombre de personnes qui ont reçu des vaccins contre la grippe est bien supérieur largement à celui au nombre de vaccins distribués contre la Covid-19. Et de voir qu'il y a beaucoup plus d'effets indésirables remontés, c'est déjà un premier indice. Mais ce n'est pas le seul indice. Moi, ce que j'ai fait, ce que je propose que tout le monde peut vérifier et qui s'intéresse, je précise que tous mes programmes sont en ligne et que toutes mes sources sont officielles, c'est que j'ai regardé la surmortalité qu'il y avait chaque semaine dans tous les pays d'Europe et j'ai mis en France le nombre de doses distribuées à chaque fois par tranche d'âge. Et il se trouve qu'au moment où on vaccine les gens pour quasiment tous les pays, quasiment toutes les tranches d'âge, on observe une baisse de mortalité. Donc on a deux indices. On a une pharmacovigilance qui remonte, qui est beaucoup plus alarmante que les autres vaccins, qui dit attention, on déclare des effets indésirables, des morts. Et en plus, on observe une baisse...
Et pour conclure, parce que tout ça, évidemment, a un but, c'est pour vous la prise de pouvoir de la finance et du grand capital sur la science et la médecine. Donc effectivement, il y a une thèse complotiste. Hein, mais le complot, parfois, il a existé, le complot, dans l'histoire. Il y a eu des complots. Mais là, il y a manifestement un but, un objectif.
Je vais préciser ce que vous dites. Quand, je crois que c'est vous qui avez dit on distribue les tests pour faire peur. Vous avez dit ça?
J'ai dit que la distribution des tests faisait peur et que derrière, ça permettait de faire des choses.
Vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit on l'a distribué pour faire peur. Dont je ne crois pas un mot. Le gouvernement ne va pas distribuer des milliards de tests qui lui coûtent une fortune pour faire peur. Mais pour faire peur, pourquoi? Quel est le but de faire... Pourquoi le gouvernement a envie de faire peur aux gens alors que l'épidémie ne lui apporte que des ennuis?
Non, le test a été mis en place à une période, et les gens ont été forcés de se tester à une période précise, qui est au moment du pass sanitaire, au moment où le gouvernement a décidé qu'il fallait forcer les gens à se vacciner. Non, mais le but.
Les gens qui viennent de vous entendre, plus ou moins distraitement, conclut qu'il y a eu des morts, mais plutôt dû au vaccin qu'à la maladie.
Non.
Comme ça. Ah, c'est ce que les gens vont retenir.
Je vais préciser. Il n'y a pas d'hécatombe en 2021 non plus, puisque je ne vois pas d'hécatombe nulle part à aucun moment. En revanche, il y a des traces statistiques de hausse de mortalité. Par exemple, il y a une trace statistique de hausse de mortalité des personnes âgées en mars 2020. Je détaille beaucoup dans mon livre. Pourquoi d'ailleurs ? Et je ne mets pas en cause uniquement un virus qui se répandrait et qui tuerait des gens. Je parle de la stratégie qui a été mise en place du fait de ne pas soigner les gens, de les confiner, et des choix qui ont été faits médicamenteux à l'époque, et qu'on arrive très bien à relier à cette hausse de mortalité.
On n'avait pas de...
C'est la première chose. La deuxième, quand je parle de 2020 et des vaccins, je vois bien qu'il n'y a pas de hausse de mortalité sur l'année, mais il y a une trace de mortalité.
En tout cas, moi, je voulais vous donner la parole. La préface est de Laurent Mucelli, qui est directeur de recherche au CNRS, et la postface est de Laurent Toubiana, qui est épidémiologiste et chercheur à l'INSERM. Et moi, j'ai l'habitude de donner la parole aux uns aux autres, d'apporter la contradiction. C'est vrai qu'en France, comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19 fin mars, début avril, c'est l'INSEE qui a publié ça en France.
Lié à la Covid-19.
Voilà, lié à la Covid-19, intervenu la semaine du 30 mars 2020, entre le 2 mars et le 26 avril, l'excédent de mortalité, toutes causes confondues, par rapport à la moyenne 2016-2019, est un peu supérieur en France à ce qu'il a été en Europe, tout en étant inférieur à ce qu'il était en Espagne, en Italie et en Belgique.
Tout à fait,
l'excédent des décès a touché légèrement plus les hommes que les femmes, et selon une temporalité différente, en France comme en Europe, les personnes âgées de 70 ans ou plus ont été les plus affectées.
Nous sommes d'accord, entièrement d'accord avec tout cela.
Mais c'est votre thèse.
Non, parce que
d'après les travaux que vous avez faits, est-ce que d'après vous, le confinement se justifiait, le confinement général? C'est ça la question.
Et la réponse est non, se justifie aucunement.
Là où il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu plus de... En fait, ce qui me frappe dans tous les pays du monde, c'est que tu fais tous les pays du monde, tu les prends tous,
tu vois toutes les politiques qu'ils ont faites et les chiffres sont globalement les mêmes. Il y a trois États aux États-Unis qui n'ont rien fait. Rien fait. Notamment la Floride. On est d'accord. Les chiffres sont exactement les mêmes. Et ça montre la folie des hommes de vouloir aller contre ce qu'est la nature. Et
prenons même la Norvège en Europe. En Norvège, c'est le pays qui n'a absolument rien fait, c'est le pays qui a le moins de morts. Donc il faut
le pays qui a... la Norvège n'a rien fait ?
La Norvège n'a absolument rien mis en place pendant toute l'année 2020 et il n'y a aucune hausse de surmortalité. Prenons nos voisins, les Allemands, ils ne confinent pas du tout en mars-avril 2020, il ne se passe rien au niveau de la mortalité. Ce sont nos voisins.
En Norvège, non mais ça c'est simple à vérifier.
Oui, mais de tous les pays scandinaves, c'est la Suède, je crois, où il y a eu le plus de morts et ils n'ont pas confiné.
Ils ont donné des règles très strictes et il se trouve qu'il y a un rapport d'enquête parlementaire en Suède qui montre que les personnes âgées ont été abandonnés dans les EHPAD et que la surmortalité qui est due en Suède, c'est de l'abandon des personnes âgées en EHPAD.
Écoutez, exactement comme on dit.
Mais la Norvège n'a rien fait. Mais pourquoi on ne va pas faire un sujet en Norvège ? C'est intéressant. La Norvège n'a rien fait du tout.
Pas en 2020.
Bon. Et il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas de surmortalité.
Il n'y a absolument aucune mortalité sur Mars.
Bon, mais l'Angleterre, par exemple, qui avait tenté et comme de ne rien faire, ils ont été rattrapés par la réalité. Comment vous expliquez ça ?
Eh bien, ils ont été rattrapés. Ils ont pris des décisions, du coup, sous une certaine pression populaire et médiatique. Et à partir ils prennent des décisions, il se passe des choses. Il se trouve que l'Angleterre, qui finalement prend une décision sur nous, a aussi des morts dans le même ordre.
Bon, bah écoutez, je voulais vous donner la parole. Je ne pensais pas qu'on ferait toute cette deuxième partie.
Il y a une statistique.
Oui,
mon ami.
Oui, c'est Florian Tardif qui a suivi les questions de Covid pour CNews qui m'a envoyé ça. C'est un graphique de l'INSEE où on voit la courbe de surmortalité. Parce que vous avez commencé par dire que 2020 était l'une des années les moins mortelles de notre histoire. Regardez, je ne sais pas si on le voit, non, on le voit pas du tout à l'antenne.
C'est pas de la surmortalité. Vous pouvez lire le titre, s'il vous plaît.
Nombre de décès.
Nombre de décès. Il ne s'agit pas de surmortalité, mais de nombre de décès. Et comme je l'ai dit, le nombre de décès.
Mais la courbe est exponentielle.
De la taille de la population et de l'âge des gens. Le nombre de décès va augmenter.
Mais vous regardez la courbe.
Regardez la courbe.
L'INED prévoyait déjà en 2030 qu'il y aura 800 000 décès par an. Et il prévoyait pour ça pour 2030. C'est exactement.
On voit rien. Donc bon, écoutez.
La courbe monte en flèche.
Bien sûr, mais ce sont les personnes âgées. Elle va continuer de monter jusqu'en 2030.
Il n'y a pas de surmortalité,
que des personnes âgées.
Écoutez, moi je renvoie à Pierre Chaillot. D'abord, je vous remercie. Vous êtes venu de Nantes spécialement et vous repartez là parce qu'il n'y a pas de grève encore. Vous êtes venu par le chemin de fer. Et je vous remercie beaucoup. Et dans une seconde, on va recevoir.
C'est ce que tous les bénéfices sont pour l'association Eau et Mon Cycle que vous avez reçu sur ce plateau.
Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va recevoir Patrick Chenet qui a écrit un bouquin formidable. Ah oui, Lettre d'excuses. Alors, je sais pas, vous avez envie de vous excuser dans la vie ?
Non, c'est pas
non.
À Geoffroy le Jeune.
Eh bien, à Geoffroy le Jeune, par exemple. Eh bien, Patrick Chenet, lui, il excuse tout le monde. Mais on va le recevoir.
On a parlé hors micro, ça va.
Bon, c'est un bouquin formidable qui rapporte des gens qui sont des gens mythiques, en tout cas, qui appartiennent comme ça à un passé prestigieux. Marcel Dalliot, Elvire Popisco, Marcel Aimé, François Perrier, Delphine Seyrig. Bon. Et on va en parler avec lui parce que moi, j'ai adoré ce bouquin. J'ai lu ça hier soir. J'ai adoré ce bouquin. Les bouquins de comédiens, il y a toujours 10 000 anecdotes, bien sûr. Mais là, c'est tout Patrick Chenet. C'est tendre, c'est émouvant, c'est drôle, c'est intelligent. Un peu comme d'autres. La pause et nous revenons. Merci, hein, vraiment, merci beaucoup. Merci, je vous regardais bien sûr, Laurent Goffrin. Je pensais,
vous parlez à l'intelligence, vous avez bien fait.
Ben, c'est pour ça que je regardais. La pause, à tout de suite. Lettre d'excuse. Voilà un titre étonnant. Pourquoi avez-vous envie de vous excuser ? Bonjour Patrick Chenet.
Bonjour.
On va en parler dans une seconde, mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jeu.
À Antibes, un appart-hôtel a été réquisitionné pour loger des mineurs isolés. Les centres d'accueil sont totalement saturés dans le département et pour cause, depuis plusieurs semaines, de nombreux migrants mineurs franchissent la frontière franco-italienne à Menton. Le préfet des Alpes-Maritimes a donc signé un arrêté pour les héberger en urgence pendant un mois. Un Français sur sept ne se sent pas en sécurité là où il vit. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. À noter que ce sont les plus jeunes qui disent se sentir le moins en sécurité sur leur lieu de vie. Les 18-24 ans sont en effet 30% à exprimer cette crainte. Enfin, au Panama, la voiture du pape François sera le gros lot d'une tombola. C'est la voiture que le pape avait utilisée lors de sa visite en 2019. L'église catholique du Panama espère vendre 100 000 billets de loterie pour récolter 1 million de dollars. Ils seront destinés à des œuvres caritatives.
Tout fout le camp si maintenant la voiture du pape sert de tombola. Ça, c'est plus...
Il y a un chiffre qui m'a frappé. Là.
Oui.
C'est, je ne me suis pas trompé, 86% des gens disent qu'ils sont en sécurité.
Oui, qui se sentent en sécurité.
Revenez avec nous, redites ça parce que M. Geoffrin...
Un Français sur 7 ne se sent pas en sécurité là où il vit.
Ah oui, d'accord, c'est à l'envers, mais 86% se sentent en sécurité,
là où ils vivent.
Oui. Là où ils vivent. Parce que c'est...
Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, ce n'est pas la tonalité que j'entends dans certains journaux, ou même sur certaines chaînes.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, que la plupart des gens se sentent en sécurité. Alors qu'on m'explique que la société est ensauvagée, machin, etc. Donc c'est contre-intuitif.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire que vous exagérez tout le temps.
Voilà ce que vous voulez dire.
Mais évidemment.
Voilà.
Vous n'avez encore rien vous cacher.
Vous voulez dire ça.
Vous avez une espèce de déduction très forte.
Vous parlez tout le temps, en fait. Oh là là.
L'explosion de la délinquance.
Franchement,
vos chiffres publiés par cette chaîne de télévision.
Vous savez que depuis qu'il est monté sur scène, on ne le tient plus. C'est un cabot.
Un peu. Vous trouvez pas bien.
Ah ouais, c'est un cabot. Alors il est monté sur scène et maintenant, ça y est.
Oui, c'est cool. Vous faites diversion, là. Par rapport à ce chiffre qui vous gêne.
D'abord, sur le principe, pourquoi vous excusez auprès de tout le monde? C'est un artifice ou c'est vraiment sincère?
Non, il y a un peu des deux. J'ai matière à m'excuser, ça c'est sûr, comme nous tous. Hein. Pas plus ni moins que nous tous, que vous, qu'on s'excuse. On a toujours un moment où on a failli, par indifférence, par... par égoïsme, par inattention, on a blessé les gens, on les a mis un peu, ils sont restés sur le bas-côté peut-être à cause de nous sans qu'on le veuille forcément. Donc il y a matière à s'excuser. Et puis aussi, les excuses, c'est une façon de... On peut jouer avec les excuses. Hein. D'ailleurs, on présente des excuses, on accepte des excuses, il y a des bonnes excuses qui ne sont pas forcément des bonnes, on exige des excuses, enfin bon, les excuses, on peut... Et puis c'est aussi un préalable, c'est-à-dire on peut dire je m'excuse, mais tu commences à m'emmerder. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu dis. Je te demande pardon, mais maintenant ça va, quoi. Donc, si vous voulez, le principe de la lettre d'excuse ou des excuses... on peut jouer avec. C'est simplement ça.
Alors pour donner le ton, lettre d'excuse à la belle Hélène, lettre d'excuse à la Luxure, lettre d'excuse à ma carrière, lettre d'excuse à l'île de Ré. Alors bon, moi je vais commencer. Ah, et un truc que vous avez fait, c'est horrible, c'est à votre fille. Comment vous avez pu faire ça?
À ma fille?
Oui. À votre fille. Et d'ailleurs, sa lettre d'excuse à ma fille, vous êtes, vous jouez à l'île de Ré, quoi. Vous êtes allé plus exactement à une représentation à l'île de Ré.
Et
en fait, votre fille, elle doit aller à une soirée, vous devez l'emmener à une soirée. Qu'est-ce que vous faites?
C'est
horrible ce que vous faites. Je n'arrive même pas
à comprendre. Oui, mais justement,
là, vous avez raison. Je trouve que c'est quasiment le plus horrible de tout le monde.
Vous croyez?
Ah oui.
Oui, je ne me suis pas rendu compte tout à fait, mais maintenant, puisque vous le prenez comme ça, je vais vous expliquer. Non, en fait, ma fille avait... il y avait une fête avec son petit ami. Mais sa meilleure amie, une petite blonde, avait des vues sur ce petit ami. Donc, il y avait grand danger. Oui. Mais il fallait qu'on aille absolument à cette représentation à La Rochelle. Moi, j'ai une maison à l'île de Ré. C'était des amis, c'était sa marraine, c'était obligé. Sauf qu'il fallait faire un aller-retour très vite. Mais après, il y avait un pot. Il y avait, avec les gens, où on mangeait un peu. Et je me suis un peu attardé. Sans tenir compte vraiment de son angoisse et de sa difficulté et je dirais de sa souffrance. Voilà. Mais je me suis, j'ai pas passé la nuit non plus dans cette soirée. Je suis rentré assez vite. Si vous voulez, si j'en parle, c'est parce qu'il fallait bien que je m'excuse auprès de ma fille, puisque je m'excuse auprès de mes enfants, de ma femme, de mes amis, de mes cousins, de mon père, de ma mère. Donc si ma fille n'était pas dans le tableau, ça aurait fait des ordres.
C'est ce que vous dites au départ.
Donc ce n'est pas non plus une faute très grave.
En revanche, il y a quelque chose qui nous concerne tous peut-être, c'est l'être d'excuse à la belle Hélène. Est-ce qu'on doit intervenir ou pas lorsque quelque chose nous choque? Et évidemment, souvent par lâcheté, on n'intervient pas. Et pour donner la couleur du texte qui est vraiment... Alors d'abord, c'est très bien écrit, c'est très émouvant, c'est souvent, c'est drôle, c'est tendre, c'est la vie. Il y avait Patricia, Chloé, et puis Hélène, ma petite amie grande et belle-fille. D'ailleurs, à chaque fois que vous parlez, vous êtes un homme à femme, disons-le. Quoi. C'est vous qui en parlez. Vous avez eu beaucoup de conquêtes.
J'en parle pas tellement.
Non, mais vous avez eu beaucoup de succès. Oui.
Oui, je sais pas. Franchement, j'ai pas l'avis sur la question.
Bah, écoutez, Hélène, ma petite amie, grande et belle-fille, danseuse, mannequin, courtisée, poursuivie. Bon, excusez-moi, c'est votre petite amie de l'époque. La beauté sidère. Ça, c'est vrai. Anglu fait stopper la marche du monde à l'instant où on la découvre, puis tout repart, mais un peu différemment. Ta beauté, chère Hélène, rendait les hommes foués. Pardon, pardon, de ne pas être intervenu dans ce restaurant à Marseille où Marcel Dalliot, et il y a des noms qui reviennent, Marcel Dalliot, c'est... artiste incomparable, blagueur invétéré, parfois redresseur de tort et parfois castagnière, malgré ses 73 ans, dînait avec nous. À la table, toute la troupe de la Cerisaie de Tchekhov, mise en scène par Pierre Debauche, était rassemblée. Marcel à Hélène, je peux te dire quelque chose, Hélène? Oui, Marcel. Marcel, tu ne devrais pas parler, tu te fais du tort. Et vous êtes à table et vous dites l'être exécuté parce que vous n'êtes pas intervenu. En plus, c'est votre petite copine.
Oui, oui. Non, mais si vous voulez, je voulais savoir comment elle réagissait d'abord. Parce que
oui, on va.
Si vous voulez que je vous dise,
oui.
J'étais quand même plutôt d'accord avec Marcel Dalliot. Ah oui. Voilà, donc la difficulté était là.
C'est plus une excuse alors. En fait, vous vous excusez à Marcel Dalliot, pas du tout à Hélène.
Non, simplement, si vous voulez, la description de sa beauté par Marcel Dalliot, etc., ouais. Prenait le pas sur la deuxième partie, sur l'injonction à se taire, si vous voulez. Donc, intervenir ou pas, est-ce que intervenir n'aurait pas accentué le. Accélérer le problème, la difficulté, effectivement, c'était tais-toi, tu dis des conneries, quoi.
Oui, j'ai bien compris. Alors, honnêtement, il y a beaucoup de sous-textes dans votre bouquin.
Oui.
Lettre d'excuse à Josiane. Josiane, c'est votre épouse.
Oui.
Bon, Josiane ne m'a jamais demandé de m'excuser, elle aurait pu. Aurait-elle dû? Point d'interrogation. Josiane me trouve des excuses.
Mais bon. Vous arrêtez de commenter à chaque fois par des
mots. Parce que
à chaque fois qu'il lui dit un mot, il fait.
Franchement, vous êtes un homme d'un autre temps, vous. Hein, parce que. Ouais. Josiane ne me fait pas de reproches. Qu'est-ce que vous en savez? Josiane m'accepte. Josiane passe outre. Josiane ne pleure pas, ne crie pas, ne hurle pas. Josiane en accepte l'augure. Là, je pense à la jeune génération qui va vous lire. Josiane pense que ce que je suis est plus important que ce que je fais. Josiane a du caractère, un beau caractère. Josiane est forte, très forte. Josiane m'aime. PS, j'aime Josiane. Souvent, j'ai cité ici une phrase que j'avais lue quelque part. Quand on dit j'aime le poulet, c'est pas toujours bon pour le poulet. Et vous voyez, j'aime Josiane, mais...
C'est un raccourci.
Oui, non, mais elle n'est pas de moi la phrase. Mais quand je lis ça, là, il y a du sous-texte. Je me dis, c'est une sainte, Josiane.
Mais... Non. Une femme que j'aime et qui m'aime. Et c'est un parcours de 40 ou 45 années de vie commune avec des sorties de route, oui. Bon, voilà, ça s'arrête là. Le reste, c'est un peu pudique, c'est à fleur, je ne dis pas les choses. Non, voilà, on peut deviner, ça s'arrête là. Mais j'aime Josiane et Josiane m'aime, c'est ça l'important. Je crois que j'ai bien envoyé, là.
Pourquoi vous dites « je m'excuse d'être un artiste, je m'excuse de créer la vie avec la vie pour elle, dans elle » ?
Parce que j'ai une expérience dernièrement difficile où je répétais une pièce que je n'ai pas jouée, d'ailleurs, puisque on a tout arrêté. Je trouvais que l'incompétence du metteur en scène, qui venait du cinéma, d'ailleurs, était telle que... J'étais un peu en colère. Donc j'ai écrit ça en rentrant d'une répétition. Et voilà.
D'ailleurs, vous vous excusez d'être vis-à-vis des metteurs en scène, mais je me dis que avoir Patrick Chenet, forcément, vous savez tout de votre métier. Vous le connaissez par cœur, intimement. Donc quand vous voyez débarquer un metteur en scène, Delon en parlait de la même manière, vous savez immédiatement. Et ça peut vous agacer s'il n'est pas à la hauteur de... ce que vous aimeriez qu'il soit. Je m'excuse de leur avoir peut-être trop montré que, contrairement à eux, moi j'y arrivais. Ça les a encore davantage isolés dans leur impasse et incapables de faire demi-tour au pied du mur, de voir ailleurs une porte de sortie, une issue de secours, puis plus qu'aller dans le mur. Ils se sont écrasés contre le mur. Avoir le statut de metteur en scène ne suffit pas pour être un créateur, etc. etc. Mais est-ce que vous convenez que vous mettre en scène, avec tout le passé que vous avez, pour un jeune metteur en scène, il peut être tout simplement terrifié.
Non, d'abord, c'est un moment d'humeur, un billet d'humeur. L'humeur du lundi n'est pas forcément celle du mardi. Donc, non, je crois que la fonction de metteur en scène est très importante. Hein, c'est une invention, c'est une notion moderne. La mise en scène souvent veut prendre le pouvoir pour s'affirmer comme mise en scène. Dans un certain type de théâtre, c'est bien, parce qu'on revisite les textes de façon différente, on les met... en ce qui me concerne, je suis plutôt un acteur qui joue les personnages dans une proximité, dans un réalisme, dans tout ça. Et il faut m'accompagner au mieux dans ce que je suis, qu'il y ait une espèce de collaboration entre le metteur en scène et moi, et qu'on soit plus ou moins d'accord. On peut avoir des divergences et en discuter. Quand l'obscurantisme est trop grand de l'autre côté, il y a un moment, je dis stop, on n'a qu'une vie, hein. On n'est pas obligé non plus de souffrir tout le temps.
Bon, on n'a pas. D'ailleurs, la retraite, ça se passe comment, les retraites des comédiens? Vous cotisez?
Ah, je savais qu'on allait petit à petit dériver vers.
Non, mais ça m'intéresse parce que. Est-ce qu'il y a des retraites?
Oui. Ben, les retraites à partir de 65 ans. Oui. Ouais.
Et donc, on fait valoir. Mais alors, vous cotisez? Parce que
Je cotise toute ma vie. J'ai cotisé.
C'est un métier très. C'est une caisse autonome
Je ne sais pas. J'en sais rien. Je sais que je touche une bonne retraite. Et d'autres questions?
Non, mais c'est intéressant. On va faire juste un petit insert, parce qu'il y a deux ou trois encore lettres d'excuses. Sur le principe, vous avez peut-être les uns et les autres, si vous deviez...
Il faut de l'humilité pour s'excuser, c'est toujours courageux. Enfin, il est parfois difficile de s'excuser, je trouve, c'est une preuve de sagesse. Donc, c'est intéressant de faire tout un recueil. C'est intéressant.
Non, oui, en même temps.
On est au confessionnal. C'est un bilan de votre vie, en réalité.
Qui n'est pas fini.
Vous demandez un peu pardon. Vous demandez un peu pardon.
Oui, c'est. Bon. Mais c'est un jeu aussi.
Vous cherchez quoi, la rédemption?
Non, pas encore. Ça va venir.
Bon.
On va vers une société où ce sera obligatoire.
Quoi donc?
Je vais faire l'excuse. Ah.
Tout devient, vous savez, chaque mot, c'est un petit théâtre que nous avons.
Oui.
Et on n'est jamais surpris ou déçu des interventions. Pour Dominique Jamais, tout devient politique. C'est-à-dire qu'il faudra se mettre au milieu, dans un procès stalinien, et dire oui, j'ai fauté. Et... c'est ça que vous voulez dire.
Sandrine Rousseau, Alice Coffin prendront le pouvoir. Et ce sera terrible.
Mais ça n'a pas l'air de vous faire plaisir.
Voilà, ce sera terrible.
Comment?
Terrible.
Ce sera terrible.
Bon, on reviendra parce qu'il y a une ou deux lettres également que je voulais citer. Et c'est vrai qu'on vous a reçu plusieurs fois ici et vous avez parlé avec beaucoup d'émotion à chaque fois du décès de votre fils, qui ouvre d'ailleurs, lettre d'excuse à Ferdinand, qui ouvre le livre. Mais avant cela, on va parler la semaine prochaine de la rue Erlanger. Et si vous vous souvenez, il y a eu ce terrible incident. Et,
incendie.
Incident, j'ai dit, pardonnez-moi, incendie. Et Noémie Schulz a rencontré des victimes de cet incendie. C'est l'ouverture lundi du procès de la rue Erlanger qui avait fait 10 morts et 90 blessés il y a 4 ans, presque jour pour jour, c'était le 5 février 2019. Et une habitante de l'immeuble, Madame Boularès, est jugée par la cour d'assises de Paris à partir de lundi. C'est l'incendiaire présumé qui souffrait de troubles psychiatriques et avait été plusieurs fois interné. Et le procès devrait durer 3 semaines. Je vous propose de voir, on en parlera d'ailleurs assez longuement lundi avec Noémie Schulz, parce qu'elle a rencontré beaucoup de témoins et beaucoup de victimes de cet incendie. Et je voulais vous montrer ce matin le sujet qu'elle a réalisé.
Claire a quitté Paris. Elle ne pouvait plus vivre à un étage élevé. Elle a choisi cet appartement à Orléans, près de sa famille, dans un immeuble moderne, et elle se tient prête en cas de nouvel incendie.
Je peux évacuer de ma chambre, du salon, et ici, j'ai ma corde. Ça, en cas de besoin, je l'utilise.
Si Claire envisage le pire, c'est parce que le 5 février 2019, elle a passé 2 heures pieds nus sur son balcon du 8e étage à attendre les pompiers.
J'entends mes voisins hurler, j'entends des cris que j'ai jamais entendus toute ma vie, des hurlements de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui se fait attraper par le feu et qui est en train de mourir, brûlé vif. Je sens des odeurs aussi, pas des odeurs que de plastique ou quoi, je sens des odeurs, quoi. On est désespérés parce que quand on sait ce qui se passe en dessous et quand on voit ce qui se passe en dessous, que mes voisins du dessous, certains saute ou... Bah, on se dit que nous, aux étages plus élevés, on ne va pas y arriver, quoi. Donc bah, je prends un moment pour parler à ma grand-mère, pour parler à ma maman. J'ai dit au revoir à toute ma famille, à tous mes amis, dans ma tête. Ouais.
Adèle, une voisine, s'est elle aussi réfugiée sur son balcon du 8e étage pour échapper aux flammes. Paniquée, elle hésite à monter sur le toit. Elle appelle sa mère. Pendant une heure, Adèle, Pascal et un pompier vont se parler au téléphone.
Il faut que je monte. Et le pompier lui a demandé de ne pas monter, de rester à terre. Et je lui disais, mais s'il faut monter. Donc j'expliquais la physionomie des lieux, qu'elle est au dernier étage. Et le pompier s'est fâché contre moi. Il m'a dit, madame, arrêtez de donner des consignes contraires aux miennes à votre fille. Et moi, je voulais sauver ma gosse, c'est normal. Et du coup, Adèle, elle a écouté le professionnel, elle n'a pas écouté maman. Et du coup, elle a assisté à toute la progression du feu pendant une heure, jusqu'à sa mort. Et les dernières paroles de Adèle, c'est « Maman, j'ai les flammes sur moi ».
Malgré sa souffrance, Pascal a prévu d'être la plus présente possible aux audiences. Elle attend des réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose encore.
Moi, je voudrais juste comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il n'y aurait jamais dû avoir 10 morts, en termes clairs. Mais encore une fois, moi, je n'ai aucune revanche à prendre. Tout ce que je veux, c'est qu'on me ramène ma fille. Et ça fait presque 4 ans, ma fille n'est toujours pas là.
Claire, Pascal et de nombreuses autres victimes seront entendues pendant ce procès qui doit durer 3 semaines.
Reste sans voix.
Le procès donc s'ouvre lundi, et je rappelle qu'il avait fait 10 morts et 90 blessés. C'est toujours difficile dans ces cas-là d'enchaîner. On avait parlé tout à l'heure de Clarisse Kremer, qui est cette navigatrice qui ne sera pas au départ du prochain Vendée Globe à la barre de Banque Populaire. Le groupe l'a débarquée. On s'étonne parfois même de la communication et de cette contre-publicité qui est faite à la Banque Populaire. Je crois que Marine Lançon me disait qu'il y a une réaction ce matin. Je ne sais pas si c'est une réaction par tweet ou une réaction par son, si j'ose dire. On va entendre Laurent Buffard, qui est responsable de la communication de Banque Populaire, qui, à mon avis, doit sortir les rames sans jeu de mots.
Nous sommes aujourd'hui très tristes. Au lendemain du Vendée Globe 2021, nous avons renouvelé notre confiance à Clarisse Kremer pour un nouveau tour du monde en 2024, en connaissant son projet de maternité. Ça fait 4 ans que Clarisse porte nos couleurs, 4 ans qui lui ont permis de faire un tour du monde. Ensemble, on a vécu une aventure incroyable. Il était clair pour nous que Clarisse participe à nouveau au Vendée Globe 2024. Mais en octobre 2021, le Vendée Globe a publié son règlement. Un règlement inédit dans lequel les skippers doivent participer à un certain nombre de courses pour marquer des points de qualification, même s'ils ont participé à l'édition précédente. Ce n'était pas le cas auparavant. Depuis plusieurs mois, Banque Populaire s'active donc auprès de l'organisateur du Vendée Globe en proposant une adaptation de ce règlement pour tenir compte de la situation de Clarisse ou obtenir une invitation. Il faut être clair, le fait que Clarisse ait été enceinte n'a jamais remis en cause notre soutien. Nous avons déjà eu des athlètes devenus mères et nous avons toujours été à leur côté. Notre décision est aujourd'hui contrainte par le règlement et nous le regrettons tous. Le sentiment qui domine chez nous, c'est l'abattement et la tristesse. Face à une organisation inflexible, tant notre engagement aux côtés des femmes athlètes est fort et incontestable depuis longtemps. C'est aujourd'hui une situation qui nous échappe.
Bon, monsieur Buffard, il faut qu'il entre au gouvernement très très rapidement. À mon avis, il a sa place auprès d'Emmanuel Macron. Banque Populaire a viré Clarisse Kremer.
Mais là, il se dédouane.
C'est les faits. Voilà, c'est pas le règlement de Vendée Globe, c'est Banque Populaire qui a viré. Voilà. Et après, mais il se rejette, hein, Vendée Globe, oui. Et se rejette là, la responsabilité. C'est formidable, en fait. Et personne n'est dupe. Donc, un mot sur les retraites, peut-être, avant de poursuivre. D'abord, on sera avec Jacques Vendroux tout à l'heure. Mais un mot sur les retraites, parce qu'hier, Mme Borne était présente.
Absolument.
La contestation, elle est plus forte. Mais il y a un mélange de colère et de résignation dans l'opinion publique, puisque les gens sont persuadés que ça va passer. Mais en même temps, ils sont en colère.
Ils sont toujours plus contre la réforme. Plus le gouvernement parle, plus ils sont contre la réforme, plus ils sont prêts à descendre dans la rue. On a bien vu que le deuxième mouvement a été plus fort que le premier. Mais effectivement, ils pensent toujours que le gouvernement finira par faire passer sa réforme et ne reculera pas. On parlait d'Edouard Philippe tout à l'heure, qui a défendu, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, cette réforme avec beaucoup d'énergie. face à Bruce Toussaint hier sur BFM. C'était beaucoup plus compliqué pour Elisabeth Borne hier sur France 2. Notamment, on lui a posé une question sur... En fait, elle ne connaît pas l'entièreté de sa propre réforme. Il y a une question qui a été posée sur est-ce que les trimestres pour les carrières longues seront pris en compte. Eh bien, elle ne savait pas répondre. Elle dit, je botte en touche, je ne sais pas. Donc, elle a fait quand même deux annonces. Sur les seniors, il y aura peut-être des sanctions financières qui vont s'appliquer aux entreprises si elles n'emploient pas assez de seniors. Et puis le gouvernement pourrait reculer sur les 44 années de cotisation pour les plus jeunes.
Ça fait deux fois que vous citez Bruce Toussaint dans l'émission. Moi, j'aime bien Bruce, mais ça fait deux fois. Hein. Bon. Donc, si vous souhaitez aller travailler avec lui, en face, vous me le dites. Hein. Mais ça fait deux fois. J'aime bien, mais bon.
Vous l'avez cité aussi tout à l'heure.
Une fois. Oui, ça fait deux fois. Bon, vous avez un avis sur les retraites et sur ce mouvement social?
Plus ou moins. Vous voulez que je vous dise un truc? Je ne suis pas un spécialiste, ni économique, ni je n'ai pas à donner mon avis. Je ne suis pas penché sur la question, évidemment. Donc, je peux donner un avis, mais ce serait parce que vous me posez... Parce que il faudrait que j'y réponde. Je n'ai pas forcément envie de répondre, parce que j'en sais rien. Le seul truc, c'est que quand même, de mon expérience, des gens que j'ai vus autour de moi, je vais m'attirer des foudres, hein, c'est que les gens qui sont en retraite... La plupart, je ne parle pas des métiers pénibles, les métiers où on a le dos explosé, etc. La plupart se font chier. Et très vite, ils veulent rentrer dans des associations, avoir des petits boulots, être utile à quelque chose. Moi, je connais un type, je vais souvent au cimetière Montparnasse, qui passe ses journées au cimetière Montparnasse à arranger les tombes, quand il y a un peu de vent, à enlever les feuilles, etc. Il a l'impression d'être utile à quelque chose, de rendre service. Et ça lui fait du bien. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai constaté ça autour de moi. Très souvent, et les gens qui n'ont aucune activité me le disent et me disent je me fais un peu chier. Finalement, c'est quand même. Voilà. Je ne parle pas des métiers pénibles, évidemment. C'est tout ce que j'ai à dire, mais ce n'est pas une expérience. J'ai remarqué ça. Maintenant, le reste...
Je pense que vous avez raison. Mais après, là, ce que vous soulignez, c'est aussi la question de projet, la question d'engagement. Ça peut être engagement associatif ou mille autres choses. Mais les gens qui défilent aujourd'hui dans la rue, c'est sur l'obligation de travailler davantage, y compris pour des métiers pénibles qui les indignent. Et ça, je les comprends.
Pour les métiers pénibles, je n'ai pas l'impression, justement.
Oui, mais même pour des métiers qui ne sont pas jugés pénibles, c'est effectivement le fait de rester au travail. La vie contemplative et la vie active sont deux impératifs à mêler, y compris quand vous êtes retraité. Mais ça, c'est un autre sujet.
Vous parliez du cimetière Montparnasse. La première lettre, c'est une lettre d'excuse à Ferdinand. Mon petit bonhomme, mon grand, mon fils, écrivez-vous. Je m'excuse de ne pas t'avoir protégé. Je m'excuse de ne pas pouvoir t'admirer grandir. Je m'excuse de ne pas être témoin à ton mariage. Je m'excuse de ne pas devenir le papy idéal dont tu aurais rêvé pour tes petits descendants. Même si j'aurais voulu changer le nom de papy en bon papa ou en grand papa ou... Patrick ou Pape, essayez d'éviter Pep, mais au vrai, je m'en fous, je te demande pardon de n'avoir pas pu profiter un peu plus de tes beaux yeux, de ton rire cascadant. Je me souviens que je te faisais beaucoup rire, ça créait des liens forts, etc. etc. Et vous parlez aussi du loup et de l'agneau que vous lui disiez, et vous dites, je suis désolé, excusez-moi, mais je ne regarde plus les matchs du PSG. Avec toi près de moi gesticulant. Et je trouve que cette lettre, avec les mots les plus simples d'ailleurs que vous écrivez, est émouvante. Lettre aux jeunes acteurs, lettre d'excuse aux jeunes acteurs. Pourquoi les jeunes acteurs, vous ne les aimez pas?
Ah non, non, je dis jamais ça dans ma lettre. Je dis simplement qu'il y a un exercice particulier qui est de prendre des... exercice de diction, ton tétati, ton tétatou, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, du Pernambouco, qui sont des exercices de diction un peu obligés, en tout cas à mon époque, quand on était au conservatoire, même encore maintenant, je crois, qui ne servent strictement à rien. C'est du pipeau.
Dis-moi, Groga Gongandor, quand des Groga Gongandor, je me dis Groga Gongandorgerai quand tous les Groga Gongandor seront des Groga Gongandorgers, parce que les journalistes font parfois la même chose.
Ça sert à rien.
Les journalistes comme les acteurs, il faut qu'ils soient dedans, il faut qu'ils soient derrière, il faut qu'ils captent le public.
Ah oui, alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des bonnes voix, des mauvaises voix, des bons physiques, des mauvais physiques, etc. Ou est-ce qu'au contraire, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle?
Non, les voix, ce n'est pas le problème. C'est ce qu'on est, c'est la présence, c'est ce qu'on incarne. Si on est dedans, si on est derrière, comme les acteurs. La voix, on s'en fout. Quand vous êtes dans le coup, vous pouvez avoir une voix complètement cassée ou petite ou même désagréable. On s'en fout. C'est pas ça le plus important.
Je disais, il y a des rencontres. Vous parlez, par exemple, Marcel Aimé. Vous avez rencontré Marcel Aimé?
Oui, ben, j'ai joué. C'est la dernière pièce.
Oui. Alors il disait, c'est cornichon. C'est drôle. Quand quelque chose n'allait pas en répétition, il disait, oh, ça, c'est cornichon.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il était très mutique. Il parlait jamais. Mais quand même... Il était tous les jours en répétition. Quand quelque chose le dérangeait un peu, il prenait la parole timidement et disait « c'est un peu cornichon ». Voilà. Et c'est le seul mot que j'ai entendu de sa bouche, c'est cornichon.
C'était quelle pièce ?
La Convention Belzébuth. C'était une société où on avait le droit de tuer pour éviter les guerres. C'est-à-dire l'agressivité des humains était dirigée entre eux. Donc...
Qui a été un bide, cette pièce ?
C'est un bide.
Ouais, qui n'a pas été rejoué d'ailleurs, je pense.
Peut-être. Si, mais je crois. Mais
il y a d'autres pièces de Marcel Aimé qui. Bon. Et puis alors Delphine Seyrig aussi, qui appartient à la mythologie un peu du théâtre, du cinéma, qui avait beaucoup joué Pinter. Vous avez joué Pinter d'ailleurs.
Oui.
Et alors, puisque Pinter, c'est vous faites le retour, je crois, de Pinter. Oui, vous êtes à Nantes. Alors le retour, c'est drôle parce que le retour, vous retournez pas justement en plateau. Précisément, c'est horrible ce que vous avez fait à Mathilde Amé.
Mais à ma décharge, j'en ai pas fait exprès, il n'y a pas de volonté. Bon, c'est pas pareil.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que j'estimais un quart d'heure de battement entre. Et j'ai laissé Mathilde Amé seule en scène avec Guillaume Depardieu, et il y avait à peu près un quart d'heure où je n'étais pas en scène avec elle. Et je suis retourné dans ma loge pour vérifier que j'avais bien mes lunettes que je pensais avoir perdues. Voilà. C'est ça le début de l'histoire. La loge était très loin, il y avait trois escaliers industriels, deux couloirs. J'ouvre le tiroir et effectivement, mes lunettes sont là. Ouf ! Et au moment de partir, j'aperçois un journal dans un coin qui est Le Canard Enchaîné. Merci Le Canard Enchaîné. Donc, je lis le titre qui m'intéresse vaguement et je vais pour sortir. J'ouvre le journal et je vois un article sur un film de moi qui va passer à la télévision. Bientôt, il y a une critique, donc par curiosité, je lis la critique, que je ne comprends pas très bien du premier coup, surtout la façon dont il parle de moi. Donc je relis la critique. Il faut savoir qu'il y avait dans la loge où j'étais, ma loge, un retour, ce qu'on appelle un retour, c'est un
retour micro, son de la pièce.
Oui, voyez, qui fait qu'on entend la pièce, que je pouvais vérifier à quel endroit on était. Et je relis l'article et je me rends compte que je le relis pour la troisième fois. Et à ce moment-là, j'entends plus aucun son dans le potard. Et je me dis, tiens, il est tombé en panne. En me disant, non, il n'est pas tombé en panne. Et j'entends en même temps un bruit de pas dans le couloir, relativement tranquille. Je me suis dit, ouf, sauvé. Si vraiment j'avais laissé Mathilda, si j'avais raté mon entrée, comme on dit au théâtre. Il y aurait un peu de la précipitation, on entendrait des cris, Patrick, non, un petit pas tranquille, ouf, donc c'est pas ça. On frappe à la porte, et c'était le régisseur du théâtre qui voulait surtout pas être impoli, ou qui avait beaucoup d'égards qui frappent, je dis entrer, moi j'étais statufié au fond de mon truc, au fond de mon canapé. Il ouvre la porte, et ah monsieur Chenet, vous êtes là, excusez-moi de vous déranger, mais on vous attend sur le plateau.
Bon. Et vous avez couru.
J'ai couru.
Bon, on va être avec Jacques Vendroux dans une seconde parce que vous partagez avec lui une passion qui est le football. Et Jacques, je ne sais pas où il est ce soir, c'est vendredi Vendroux, quoi, ce soir, ce matin même. On parlera également de l'essentiel chez Labro, mais le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
Vous oubliez le docteur Millon.
La France fait face depuis des semaines à une pénurie de médicaments, notamment l'antibiotique amoxicilline. Le ministre de la Santé était l'invité d'Europe 1. Il a promis le retour à une situation normale dans les deux semaines. François Braun souhaite aussi lancer un plan de médicaments de manière à prévenir toute future crise. Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil pour relancer le nucléaire. La première ministre Elisabeth Borne, plusieurs ministres et les représentants de l'autorité de sûreté nucléaire et du commissariat à l'énergie atomique sont présents. Ce Conseil est un point d'étape pour respecter le calendrier de la construction promise de 6 nouveaux réacteurs. Et puis des sirènes anti-aériennes ont retenti à Kiev peu avant le début d'un sommet Ukraine-Union européenne. Les alarmes se sont ensuite étendues à tout le pays. L'Ukraine qui dit mériter de commencer cette année à discuter de son adhésion à l'Union européenne, c'est ce que réclame Volodymyr Zelensky.
Banque Populaire est en top tweet sur les réseaux sociaux. Ils vont être très contents, Banque Populaire. Ils vont passer une bonne journée. Vendredi Vendroux. Le Chevalier Blanc, Jacques Vendroux, qui vient désormais tous les vendredis après son succès durant la Coupe du Monde, où il intervenait tous les jours. Où êtes-vous, cher Jacques ?
Alors, vous savez qu'hier, c'était la chandeleur, les crêpes.
Oui.
Donc, je suis dans une grande crêperie de Maison Alfort, avenue Clémenceau, qui s'appelle Sucré-Salé. Et on a décidé avec les patrons, Romain, Eric, Laurent, Suffisant, on a décidé de créer la crêpe Pascal Pro. Voilà. Je vous le dis. Donc, j'ai réuni les renseignements qu'il fallait. J'ai eu votre garde rapprochée, Marine Lançon, les gens qui vous sont propres. Donc, en direct, pendant quelques secondes, sur CNews, la crêpe Pascal Pro. Allez-y, Eric. Allez-y.
Pascal. Alors, pour la crêpe Pascal Pro, on va commencer par faire un avocat.
Voilà.
Caramélisé.
Voilà.
Donc là, je mets le beurre à chauffer pour qu'il soit bien doré.
Voilà.
Et là, on va mettre la crêpe.
On met la crêpe.
En carré.
Voilà, parfait. C'est en direct, hein. C'est en direct. Regardez, la crêpe Pascal Pro, on a tout. On a mis des ingrédients remarquables. Alors, surtout le truc qui va vous faire plaisir, Pascal, on a mis du camembert. Je sais que vous adorez le camembert.
J'ai horreur de ça. Je n'ai jamais mangé un fromage de ma vie.
C'est un mauvais renseignement. Alors après, bon. Ami, tenez-vous bien, la confiture de fraises.
Oui, avec du camembert, ça doit être bon.
Ça va?
Je pense que Jacques Vendroux pourrait jouer
voilà, désormais. Voyez, là, vous voyez, la crêpe est en direct. Alors, regardez, elle est pas en direct. Hein.
Avec l'avocat.
Avec de l'avocat.
L'avocat.
J'ai l'avocat.
Il y a de l'avocat avec du camembert. Oh.
Oui, ben oui, on a fait quelque chose qui se passe.
Là, on vous voit plus.
C'est quand même la crêpe Pascal Pro.
Oui, bien sûr, mais là, on vous voit plus, Jacques. Ah, là, on vous voit. Là, on vous voit. Là, c'est bien. Donc, d'accord. Donc, camembert, avocat. Là, c'est quoi ? C'est des carottes ?
Là, Vincent, c'est du concassé de tomates.
Concassé de tomates.
Bon, d'accord.
Au basilic fait maison.
Bon. Et vous savez ce qu'on fait ? On revient vous voir dans deux secondes avec la fin de la crêpe, parce qu'il faut que je passe également l'ami Philippe Labrou.
Je sais, allez-y, Pascal.
Voilà, qui recevra Patrick Besson, qui est écrivain, chroniqueur, pour son dernier livre « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Et Patrick Besson, il en a marre de l'actualité et pourquoi pas des chaînes info. Il l'a dit à Philippe Labrou.
Vous vous censurez vous-même ?
Pas assez, oui. Pas assez. Des fois, je devrais me censurer, des fois. Mais j'ai un surmoi très faible.
Mais sur quel sujet
ça très puissant et un surmoi
très faible. Sur quel sujet vous contrôlez-vous un peu ?
Ben, sur les gens, ouais. Surtout sur la politique. Enfin, parce que sur les écrivains, il n'y a pas grand-chose à dire. Ou bien on les aime, ou bien on ne les aime pas. Donc, dans les deux cas, c'est clair. Ouais. Mais les hommes politiques, c'est toujours tentant, quoi. En plus, c'est des cibles... facile. Et puis surtout, ils sont omniprésents, ils sont très très là, quoi. Ils se rendent pas compte à quel point ils nous pompent l'air, par leur omniprésence sur les chaînes. Là, ça fait quand même 3 semaines, 4 semaines qu'on est sur toutes les radios, sur toutes les télés, dans tous les journaux, sur la retraite, quoi. C'est déprimant. C'est pas un thème spécialement drôle d'aller en retraite, comme de pas y aller, du reste. Les deux sont très ennuyeux, quoi. Eh ben, ça met un mauvais climat. Enfin, moi, je mets la radio, puis après, je l'éteins. Je dis, non, encore la retraite.
Bah, qu'il écoute CNews, parce que nous, on ne parle pas que des retraites. La preuve, Patrick Chesnais était avec nous ce matin. Effectivement, il a raison. Moi, je suis conscient de ça. Je n'ai pas envie de parler que de l'actualité la plus sombre. Et c'est pourquoi, régulièrement, des auteurs, des écrivains, des artistes viennent nous voir. Philippe Labrou, c'est sur C8, dimanche, vers 22h15. Vous vouliez dire un mot sur Varane qui prend sa retraite, Jacques Vendroux ? Vous vouliez dire une chose intéressante ?
Ça y est, la crêpe est terminée. Le 4e jour après Noël, elle est somptueuse. Regardez.
Ouais. Ouais. C'est vraiment bon. Je pense que vous allez en vendre beaucoup. Est-ce que vous pouvez la goûter, s'il vous plaît?
Non, mais je vais la goûter. Mais
là, non, maintenant, devant nous.
Voilà, je voulais simplement,
avec
l'autorisation, faire un petit clin d'œil à Varane.
Oui.
Varane qui arrête sa carrière internationale. Donc, je vais organiser un dîner ici avec Parisi, parce que c'est du nouveau de Parisi. Laurent Blanc, Deceï, Trésor, Bossis, Pujols, Beckenbauer, Kroll et Christian Lopez. Oui, j'ai pas oublié.
Et quel est le rapport?
C'est parti des très très grands Varane.
D'accord.
Il fallait en parler ce matin bon. Dans votre émission.
Ok, je ne vois pas le rapport avec Baresi et Christian Lopez et le retrait de Varane, mais il y en a sûrement un. Mangez devant moi. Mangez votre crêpe devant moi. Mangez la crêpe. Et
donnez-moi ce que vous dites.
Voilà. Mangez la crêpe tout de suite.
Non, mais attendez, je vais la manger tout de suite.
Vous la mangez tout de suite. Vous la mangez. On va prendre une minute de retard, je le dis pour Jean-Marc Morandini. Vous mangez la crêpe. Vous le mangez.
C'est très, très bon.
Oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, merci.
La crêpe Pascal Pro, ça va être un triomphe.
Bon, Patrick Chesnais, le système Ribadier,
oui.
Vous êtes toujours sur scène,
oui.
En tournée, vous êtes où en ce moment?
Oui, oui. Hein là, on va à Liège dimanche, après en Suisse.
Bon, manifestement, vous ne savez pas vraiment où vous allez. Mais vous...
Si, je suis à Liège, je viens de vous le dire.
Oui, dimanche. Mais moi, je l'avais vu sur scène, c'était formidable d'ailleurs.
Oui.
Vous étiez formidable.
Oui.
Comme toujours.
Oui.
Bon. Patrick Chesnais, Lettre d'excuse. Le livre est vraiment. Franchement, achetez le livre. Il est émouvant, je l'ai dit, mais il est drôle. Et puis. Ce qu'on a dit, c'est la racine carrée du bouquin. Tellement il y a d'anecdotes, tellement c'est formidable, tellement on rencontre des gens disparus et c'est intéressant. Ne manquez pas le rendez-vous de samedi. Bonjour, docteur Millot. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer et Brigitte nous expliquera comment se forme un cancer. C'est demain à 10h. Vraiment, merci à tous. On est très en retard. Audrey Missirac a été à la réalisation. Bouka Abelia était à la vision, Guillaume était au son, merci à Marine Lançon, bien sûr, à Tancred Guillotel. Toutes les émissions sont à retrouver sur CNews. Passez un excellent week-end. Jean-Marc Morandini, qu'il me pardonne dans une seconde et rendez-vous lundi.